Laudetur Jesus Christus.
La France entamera le 2 juin prochain la phase 2 du déconfinement. Parmi les nombreuses annonces hier du Premier ministre Édouard Philippe, la levée de la restriction qui limitait les déplacements des Français dans un rayon de 100 km. Pour la réouverture des frontières intérieures de l'Europe, il faudra attendre le 15 juin. Donald Trump signe un décret visant à limiter la protection dont bénéficient les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Pour le président américain, Twitter ne se comporte pas comme une plateforme neutre. Nous nous rendrons également au Liban où le Parlement vient d'adopter une loi sur la levée du secret bancaire. Et puis dans notre dossier, nous vous emmènerons au Chili, durement frappé par la pandémie de Covid-19. Depuis un peu plus de 2 semaines, la contamination a fortement augmenté avec pour conséquence une saturation du système sanitaire mais aussi une grave crise sociale. Nous en parlerons avec Mgr Chomaly, archevêque de Concepción.
Radio Vatican, le journal, Hélène Détombe.
Bonjour, réouverture des parcs, bars, restaurants et musées. La France va entamer mardi prochain la phase 2 du déconfinement. Une phase détaillée hier en fin de journée par le Premier ministre Édouard Philippe. Parmi les mesures très attendues, la fin de la limitation des déplacements. Paris et sa région continueront toutefois de faire l'objet d'une vigilance particulière. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
Édouard Philippe s'est déclaré hier soir satisfait de l'évolution de l'épidémie, mais le Premier ministre a souligné que le gouvernement et la population doivent demeurer vigilants. La liberté va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception, a-t-il lancé, avant de mettre en garde contre ce qu'il appelle une forme de désinvolture face à une épidémie qui a provoqué la mort de quelque 28 000 personnes en France. À partir de mardi, il n'y aura plus de restrictions au kilométrage des déplacements depuis le domicile. Les collèges et les lycées vont rouvrir, les cafés, les bars et les restaurants aussi, de même que les plages, les musées ou les monuments. Cependant, le gouvernement continue de recommander à l'ensemble de la population le port du masque et les autres gestes barrières. Il recommande aux personnes fragiles de rester confinées. Le Premier ministre conseille aussi à ses compatriotes d'être raisonnables dans leurs déplacements et de continuer à privilégier le télétravail. Par ailleurs, à Paris et dans sa région, ainsi qu'en Guyane et à Mayotte, le déconfinement continuera d'être plus limité qu'ailleurs, car selon les termes du ministre de la Santé, les tensions sanitaires y restent importantes. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
Et le Premier ministre s'est par ailleurs dit favorable à la réouverture des frontières intérieures de l'Europe à compter du 15 juin et il a alerté face à l'impact d'une récession historique. Et précisément, les conséquences économiques de la crise sanitaire sont déjà visibles dans le secteur automobile. Après Nissan, le constructeur automobile français Renault annonce 15 000 suppressions d'emplois dans le monde, dont 4 600 en France. Des mesures dans le cadre d'un plan d'économie de 2 milliards d'euros sur 3 ans qui ont été présentés hier soir au syndicat. Le projet doit être rendu public dans la matinée. Le géant allemand de l'automobile, Volkswagen, a lui ce matin annoncé un investissement d'environ 2 milliards d'euros pour se développer dans l'électrique en Chine, premier marché automobile mondial. La COMECE encourage l'Union européenne à répondre au chemin de la solidarité. La commission des épiscopats de la Commission européenne a pris la parole hier au lendemain de l'annonce par la Commission européenne d'un plan de relance européen historique. 750 milliards d'euros d'emprunt sur les marchés pour affronter la crise liée à la pandémie de Covid-19. Dans un communiqué, la commission pour les affaires sociales de la COMECE a salué une initiative ambitieuse. Son président, Mgr Erouard, y voit une opportunité de remettre au centre la justice. On l'écoute.
Aujourd'hui, à travers le plan de relance qui est proposé par la Commission, qui doit être encore approuvé par les députés et puis par les différents États, tout ceci manifeste une autre direction. Et nous pensons que c'est vraiment la solidarité qui doit être mise au cœur du projet européen. Et donc, à la fois, nous encourageons ce qui est en train de se construire et puis nous voulons rappeler aussi certains enjeux fondamentaux pour mettre la justice au cœur de cette période de relance. Nous avons à retrouver les origines, les racines du projet européen, des pères fondateurs, dans le fait de dire que nous voulons construire un avenir en commun. Et quelles sont les valeurs sur lesquelles nous voulons nous appuyer ? pour construire cet avenir commun. Ceci n'est pas seulement un rêve ou une belle idée, mais quelque chose qui peut se réaliser si nous acceptons de mettre l'homme et la justice au cœur de la démarche qui est en train de se construire.
Des propos recueillis par Jada Aquilino. La CPI, la Cour pénale internationale basée à La Haye, a autorisé sous condition l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à quitter la Belgique, où il était assigné à résidence depuis son acquittement en 2019, accusé de crimes contre l'humanité. Charles Blégoudé, l'ancien chef des jeunes patriotes ivoiriens, est lui aussi autorisé sous condition à quitter son pays de résidence, les Pays-Bas. Le Parlement libanais a adopté hier une loi sur la levée du secret bancaire concernant les responsables publics et les fonctionnaires, un texte qui fait partie de l'arsenal législatif dont le pays du Cèdre veut se doter pour engager la lutte contre le terrorisme et la corruption endémique qui mine le monde politique et l'administration. À Beyrouth, Paul Ralifé.
La loi sur la levée du secret bancaire répond à l'une des principales revendications du mouvement de contestation qui a éclaté le 17 octobre pour dénoncer la classe politique jugée corrompue et irresponsable. La loi votée par le Parlement ce jeudi concerne toute personne impliquée dans la vie publique, élue ou nommée, que ce soit les députés, les chefs de municipalité, les magistrats, les officiers ou encore les conseillers. Elle englobe les affaires et les crimes de corruption, de blanchiment d'argent, de financement des campagnes électorales ou du terrorisme. Cependant, le texte comporte une lacune de taille car la levée du secret bancaire n'est pas du ressort de la justice. Seule une autorité de lutte anticorruption peut ordonner cette mesure et cette instance attend toujours d'être formée. Une commission d'investigation de la Banque centrale disposait déjà de cette prérogative depuis des années, surtout pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cela n'a pas empêché la corruption de gagner tous les secteurs de la société, plaçant le Liban à la 137e place sur 180 du classement annuel des pays les plus corrompus publié par l'ONG Transparency International. Beyrouth, Paul Khalife pour Radio Vatican.
Minneapolis aux États-Unis, toujours le théâtre de violence après la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, étouffé lors d'une violente interpellation. Pour la troisième nuit consécutive, des milliers de personnes se sont rassemblées dans les quartiers nord de la ville. Des affrontements ont eu lieu avec la police. Un commissariat a dû être évacué après avoir été incendié par des manifestants. Le président américain Donald Trump a évoqué un drame odieux et tragique. C'est ce qu'a fait savoir sa porte-parole. Donald Trump qui poursuit son bras de fer avec les réseaux sociaux. Après avoir menacé de fermer certaines plateformes, le président américain a signé hier un décret qui pourrait limiter les marges de manœuvre des géants d'Internet. Le président américain est notamment furieux contre Twitter. Deux de ses messages postés ont été épinglés comme trompeurs. Une première. Sa réponse était donc attendue. Les explications de Loïc Loury.
Un pilier du fonctionnement des plateformes numériques, voilà à quoi Donald Trump a décidé de s'attaquer. En l'occurrence, la section 230 du Communications Decency Act de 1996, en vertu de celui-ci, des sites comme Facebook, Twitter ou YouTube jouissent d'une immunité contre toute poursuite liée au contenu. Il leur donne aussi la liberté d'intervenir sur les plateformes comme bon leur semble. Ce n'est pas une bonne chose. Une petite poignée de réseaux sociaux en position de monopole contrôle la plupart des communications privées et publiques. C'est une première dans l'histoire américaine qu'un si petit nombre de sociétés contrôlent ainsi une sphère si importante des interactions humaines. Donald Trump leur reproche régulièrement de censurer les conservateurs, lui qui inonde pourtant Twitter de messages. Et c'est justement Twitter, en épinglant deux de ses publications, qui a provoqué cette réaction du président américain, ce décret qui doit permettre aux autorités de régulation de limiter les libertés dont profitent les géants d'Internet. Et si ses détracteurs accusent Donald Trump d'agir par caprice, l'idée de brider le Decency Act dépasse les clivages politiques et le débat est particulièrement sensible en cette année électorale. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
La pandémie de Covid-19 a fait hier de nouvelles victimes aux États-Unis. Plus de 1000 personnes ont encore succombé à la maladie. Le pays le plus durement touché enregistre le chiffre dramatique de 100 000 décès. Bilan très lourd également au Brésil, où là aussi 1000 personnes sont décédées hier.
Vous êtes parent ? profitez du confinement pour apprendre à votre enfant à identifier les contenus mensongers et les rumeurs. Sur Internet, trouvez une information confirmée comme fausse et posez à votre enfant ces questions. Qui est à l'origine de cette information? À qui est-elle destinée? Provient-elle d'une source fiable? Pendant l'épidémie de Covid-19, ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO.
Direction dans notre dossier le Chili où le coronavirus poursuit là aussi sa progression fulgurante. Le pays enregistre 87 000 cas de contamination sur 18 millions d'habitants et 890 décès. Le système sanitaire a du mal à faire face. Au bord de la saturation, les hôpitaux de la capitale envoient des patients dans des établissements de santé en province. À Santiago, le confinement obligatoire est en vigueur depuis le 16 mai. Le ministre de la Santé a annoncé qu'il serait prolongé d'une semaine. Cette grave crise sanitaire a de lourdes conséquences sociale, hausse du chômage, difficulté à se nourrir, surtout pour les plus pauvres. Les tensions se font sentir ces dernières semaines, en particulier à Santiago, où des manifestations parfois violentes ont eu lieu. À 500 km de la capitale se trouve la deuxième ville du Chili, Concepción, et là aussi le coronavirus soulève de grands défis. Monseigneur Chomali est l'archevêque de Concepción et membre de l'Académie pontificale pour la vie. Il dresse un panorama de la situation actuelle.
À Concepción, la situation est mieux, dans le sens qu'il y a une stabilisation des malades. Mais le gros problème que nous avons dans la région, c'est beaucoup de gens qui sont sans travail, parce que beaucoup de petites usines, petits commerces, restaurants, hôtels sont fermés il y a 4 mois. Alors ça fait un problème social grand. Et l'Église est en train d'aider avec de l'alimentation et chercher de faire le mieux pour aider à ces personnes. Aussi, il y a un problème dans les écoles et les universités. Pas tous les élèves ont la possibilité d'un computer et une connexion Internet. Nous sommes en train de voir avec plus force les inégalités sociales que l'Église est en train de parler avec de ça il y a beaucoup de temps.
Vous avez parlé de l'aide apportée par l'Église au niveau alimentaire. Est-ce que vous avez d'autres exemples de soutien apporté à la population, ou est-ce que vous êtes en train d'établir des projets pour les prochains mois?
Nous sommes en train de faire quelques actions au niveau de l'université, de lycée. Mais il faut dire, pour nous, ce n'est pas une chose nouvelle, dans le sens que l'Église à Concepción est très préoccupée et occupée des gens qui habitent dans la rue, les gens qui ont un genre de discapacité, surtout les anciens. Et nous avons des maisons pour les accueillir. Et aussi, il faut dire que nous avons passé à le gouvernement notre maison de retraite spirituelle avec 50 chambres et ils sont là-bas en train de recevoir des malades. Alors, nous sommes vraiment insérés dans la communauté, en aidant, parce que c'est notre charisme et notre vocation, aider en silence les gens en situation difficile.
Sur le plan en plus national et gouvernemental, est-ce qu'il vous semble que le gouvernement, à lui seul, est en mesure de répondre aux besoins de la population?
Moi, je pense que maintenant, tout le monde se rend compte que dans ces moments-là, on a besoin d'un État fort, un État qui a la capacité de prendre sur ses mains les gros problèmes que nous avions. C'est incroyable de voir que beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises sont en train de faire des aides de matériel médical et tout ça. Mais moi, je pense que ça ne peut pas rester à la bonne volonté d'une personne, ça devrait être une politique d'État. Mais je pense qu'ils font le mieux de bon foi, et moi je pense que c'est le moment de les aider, et c'est pas le moment de critiquer parce que nous sommes dans une émergence qui est très grave.
Dans cette situation difficile et face à l'incertitude, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir?
Pour moi, l'espoir, c'est le Seigneur, bien sûr. Il a dit qu'il va être avec nous tout le temps. Et surtout les gens, hein, la foi des gens est incroyable. Nous sommes en train de recevoir beaucoup de support de beaucoup de gens et ça, ça me fait sentir qu'il faut continuer. Il faut continuer en train d'aider le pays, qu'il soit un pays mieux et plus juste. Il ne faut pas perdre l'espoir parce que c'est à la fin la promesse de Dieu qui est présente aussi dans ces moments-là.
Voilà, c'était Monseigneur Fernando Chomali, archevêque de Concezione, interrogé par Adelaide Patrignani. Il était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci de votre écoute. Au revoir.